vivent notre vie quotidienne.
Alors, pour répondre à cette question, il faudrait d'abord répondre à la première. Qu'est-ce que vous appelez un alien ?
Voilà, bon courage, Enel. 01-45-75-44, deux fois. 01-45-75-45-45.
Alors avant d'accueillir Alain, Marie-Thérèse, un auditeur nous a appelé, ce qui me paraît assez logique finalement, hors antenne, pour nous demander, lui étant aveugle, si vos livres allaient être traduits en braille ou tout simplement mis en cassette audio.
Non, je dirais c'est une triste boutade qui va sortir en Chine, mon bouquin, mais en braille, non, faut peut-être que je demande, je ne sais pas du tout. Ça, c'est les éditeurs qui s'occupent de ça. C'est une bonne question, ça, je vais regarder, hein.
Marie-Thérèse de Brosse, peut-être n'êtes-vous pas opposée à ce que l'association Valentin Houy le mette sur bande magnétique.
Ah non, pas du tout.
Alors peut-être une version audio.
Pas du tout, sans problème, et gratos pour les aveugles, ça va absolument.
Hein. Du bouquin, enquête sur les enlèvements extraterrestres, actuellement en poche, donc édition J'ai lu.
Nous accueillons Alain.
Oui, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonjour, plutôt à cette heure-là. Oui, j'ai ressenti tout à l'heure quelques frissons quand on a parlé de l'intervention des aliens, des enlèvements, etc., etc. Bon, tout ça, ça me fait un petit peu peur. Bon, j'interviens. J'avais écouté l'autre jour l'émission sur les extraterrestres, d'ailleurs une émission qui m'avait fort intéressé et fort passionné. Je suis agnostique, mais enfin j'ai une recherche spirituelle.
Et vous êtes prof d'histoire.
Il m'a reconnu. je ne sais pas quel lien établir entre ces phénomènes et des phénomènes que l'Église catholique, à tort ou à raison, qualifie de diaboliques. Est-ce que ces êtres, en supposant leur existence réelle, sont-ils néfastes, je veux dire, ont-ils une intention négative ou positive vis-à-vis de notre pauvre humanité, ou neutre, ou cherchent-ils seulement à nous connaître, à savoir comment nous fonctionnons physiologiquement ou psychologiquement?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Bon. Premièrement, et vous, alors, le prof d'histoire, ça vous intéressera.
Oui.
L'histoire de l'humanité, mais nous remontons aux carrières, aux peintures rupestres de Lascaux, on peut vous remonter et ceci dans l'équivalent dans toutes les traditions. L'histoire de l'humanité est riche de tentatives de contact avec l'invisible. L'invisible qui sera perçu, selon les cas, comme bénéfique ou maléfique. C'est pourquoi, si on le croit maléfique, il faudra l'apprivoiser, d'où les rituels sanglants pour apaiser les dieux courroucés, qui vont même jusqu'à des sacrifices de personnes, les offrandes on ne peut plus matérielles, comme si les entités invisibles étaient matérielles, avaient besoin de se nourrir. Vous voyez dans la Bible des témoignages extraordinaires quand vous voyez l'entrée des Hébreux à Jéricho, les massacres extraordinaires qui ont été faits au nom de Yahvé. Yahvé demandant qu'on tue tous les hommes, les femmes.
C'est Abraham qui, d'après la Bible, bien entendu, met fin au sacrifice humain.
Oui, mais
symboliquement.
Oui, mais attendez, le Dieu des Juifs demandait qu'on lui sacrifie, ça c'est l'entrée à Jéricho qui était absolument épouvantable, tous les gens qu'il avait offensés, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants et les animaux, mais demandait qu'on lui garde l'or. Bon, alors tout ça, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'un dieu invisible a besoin d'or? Bon, autre chose, ce qu'on appelle les aliens et leurs descriptions ne nous sont connus que par les témoignages. Il faut savoir comment on prend les témoignages et quelles sont les possibilités qu'a notre cerveau de décoder ce qui apparaît. Je vais vous prendre un exemple très précis. Moi, j'ai travaillé sur une apparition de la Vierge qui m'intéressait beaucoup au Venezuela. Vous savez qu'on appelle traditionnellement les gens qui voient la Vierge, on les appelle les voyants. Bon.
Oui, mais ils sont seuls à voir.
Ils sont seuls à voir, mais bien sûr. Moi, j'étais aux expériences de Medjugorje. Bon, très bien. Alors, revenons à cette histoire de voyants du Venezuela. Il y avait 7 enfants qui témoignaient avoir vu la Vierge arriver, etc. L'enquête était très bien faite. Le milieu socioculturel à qui appartient un témoin est toujours extrêmement intéressant parce que ça nous donne des filtres différents pour nos perceptions.
Oui, comme à Fatima,
c'était
3 petits bergers pauvres.
Alors, dans le cas de cette apparition au Venezuela, les interrogatoires séparés des enfants disaient que 3 avaient vu la Vierge, 2 avaient vu un ange et 2 avaient vu un extraterrestre.
Très bon.
Bon. Quand on a fouillé davantage, on s'aperçoit que les 3 premiers étaient d'une bonne famille chrétienne, vous savez, catholique, vraiment le catholicisme d'Amérique du Sud que je ne vous décris pas. Les 2 qui avaient vu des anges appartenaient à des familles où l'empreinte de la religion était moins forte. Par contre, les anciens cultes étaient encore un peu vivaces. Et quant à ceux qui avaient vu des extraterrestres, ils appartenaient à des familles communistes. Or, il est bien évident que dans le cerveau d'un enfant élevé dans la religion catholique, il est normal de voir arriver la Sainte Vierge, ou à la rigueur un ange. Un enfant qui est élevé dès l'enfance, savoir que tout ça, c'est de la sottise et superstition, risque pas de voir arriver la Vierge. Mais quand il est confronté à un phénomène d'apparition quelconque, son cerveau va décoder l'apparition d'une façon qui soit acceptable par le cerveau. Nous sommes en pleine mythologie extraterrestre. Maintenant, les aliens sont absolument partout, dans la publicité, etc. Donc, ils voient un extraterrestre. Et nous avons le même stimulus qui vient frapper les 7 cerveaux, et le même stimuli est décodé différemment selon 3 profils différents.
D'accord, je suis. D'ailleurs, Jung, qui est mort en 60-61, déjà, peu de temps avant de mourir, avait écrit des choses là-dessus en disant « Maintenant, les gens voient des extraterrestres alors qu'autrefois, ils voyaient apparaître des saints, des anges. »
Oui, mais Jung précisait, parce que là, malheureusement, les gens citent toujours un mythe moderne sans l'avoir lu. C'est-à-dire, on connaît 4 pages du mythe moderne, les gens parlent de Jung sans le connaître. Et Jung précisait bien, seulement on n'a jamais vu des apparitions imprimées, impressionner les radars ou les pellicules de photos.
Sauf, au Mexique, là, il y a un manteau qui a été, qui a reçu des empreintes.
Le manteau de la Guadeloupe.
Ouais, la Vierge de Guadeloupe.
C'est ça. J'y suis allée 5 fois, c'était un pèlerinage extraordinaire.
Bon. Oui. Et il y a d'authentiques traces, je veux dire, c'est pas une supercherie, on voit quelque chose.
C'est pas une supercherie, quoi qu'il y ait un nouveau débat maintenant sur sur d'éventuels pigments. Mais enfin, le cas de la Guadeloupe est absolument passionnant. Moi, j'ai eu la chance d'aller au pèlerinage de la Guadeloupe, une époque où le sida n'existait pas. Et c'est très important parce que les Mexicains faisaient les derniers kilomètres sur les genoux.
Oui,
donc, ils rentraient dans l'église dans un fleuve de sang. Et depuis la propagation du sida, évidemment, il est interdit de faire ça parce qu'évidemment, ce serait un vecteur de transmission du virus épouvantable, donc l'entrée se fait en marchant.
Et vous l'avez vu, il est exposé, ils en font une ostentation.
Oui, absolument. Oui,
en permanence.
Sûr. Oui, en permanence. Et ce qui est très curieux, parce que pendant les bombardements, l'église a été très attaquée et la Guadeloupe n'a rien pris. Il y a des traces de balles tout à côté.
C'est possible. Donc ça ne serait pas un faux. D'ailleurs, je crois que le pape a reconnu comme...
Ah, le pape a une grande dévotion pour la Guadeloupe et il a demandé la béatification, il n'y a pas encore la canonisation, de l'Indien...
Voyant.
Oui, absolument.
Quoi. Voyant et témoin, enfin, je veux dire... Oui, enfin, on est dans l'étrange, là. Est-ce que je peux revenir à ma question de tout à l'heure? Parce qu'en règle générale... L'Église, à tort ou à raison, condamne tous ces phénomènes comme étant d'origine diabolique, voire le curé d'Ars, qui a été suffisamment Il y a des témoignages, je pense, sérieux, je veux dire, ce ne sont pas des, à ce niveau-là, ce ne sont pas des élucubrations. Il y a eu des enquêtes menées, etc.
L'Église condamne, oui, si peu ce genre de phénomène, qu'elle nomme et qu'elle continue à nommer des exorcistes, mais l'Église est très embarrassée parce que l'Église se veut ou se voudrait de plus en plus scientifique. D'ailleurs, il y a l'université de Latran, il faut dire, une des meilleures universités au monde. Et on ne sait pas, par exemple, les astronomes de l'université de Latran sont parmi les plus performants au monde. Ça, on ignore le côté quand même scientifique de l'Église, mais il est de fait que l'Église tend à se démarquer de plus en plus du miraculeux et du merveilleux pour se faire une respectabilité conforme
à
ses
peuples. Oui, elle devient cartésienne sur ses vieux jours.
Ah oui, elle essaye, absolument. Oui, oui.
D'ailleurs, beaucoup de prêtres sont maintenant rationalistes. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 83 ou 80, enfin, quelque chose comme ça. Il y a un exorciste normalement qui est nommé par diocèse. Et sur les 90, il y a à peine 5 à 10% qui croient réellement en leur mission. Les autres...
Je ne dirais pas ça, mais... Non, je ne dirais pas ça, monsieur. Je
les
dirais...
autres vous envoient chez le psychiatre.
Oui, je dis... Oui, voilà. Ils collaborent maintenant avec les psychiatres, ce qui est quand même une approche beaucoup plus intelligente, parce qu'on connaît quand même les phénomènes psychiatriques. Ils collaborent de plus en plus avec les psychiatres, mais moi, j'ai vu un psychiatre amener quand même un paysan, un patient en camisole de force avec 4 infirmiers, chez un exorciste que j'étais en train d'interviewer, d'ailleurs.
Ça me rappelle la cassette du Père Mathieu, où le Père Mathieu raconte ses exorcismes.
Ah oui.
Alors, je ne sais pas si là aussi, parce que j'ai toujours mon côté cartésien, évidemment, qui intervient, je me demande si là, on a affaire à une supercherie, ou si ce Père Mathieu est quelqu'un de sérieux, et d'authentique, et de véridique, je veux dire...
Écoutez, en général, les...
J'aurais tendance à le croire, quand même. Je vois pas pourquoi un vieil homme raconterait des...
Oui, bien sûr. Mais en général, les vrais exorcistes, les véritables, premièrement, ne font pas de publicité. Deuxièmement, ne se font pas payer. Je vois, par exemple, il y a dans le Midi, un homme qui se dit évêque. Moi, il se trouve que j'ai bien étudié la religion. Alors, évêque orthodoxe. J'ai demandé quel patriarcat. Il me répond le patriarcat d'Antioche. Le patriarcat d'Antioche, je le respecte infiniment, il est plus ancien que l'Église catholique, hein, puisque le patriarcat d'Antioche a été fondé avant l'Église de Pierre. Seulement, malheureusement, c'est un patriarcat d'Antioche rénové par lui-même, et ce monsieur n'est pas prêtre, donc il n'est pas évêque. Il fait payer une fortune ses exorcistes, enfin, il y a tout un trafic de la misère humaine qui est épouvantable, et ça... on ne peut pas taxer l'Église quand même de profiter de ça. Hein. Ceux qui en profitent, c'est vraiment les gens en dehors.
J'en garde, mais enfin, je trouve qu'elle refuse un peu trop facilement tous ces phénomènes de guérison, de médecine.
Elle est coincée par son uniforme. Oui, elle est coincée par son uniforme. Je dirais, vous savez, on a un précédent célèbre, qui est par exemple le père Teilhard de Chardin.
Oui.
Qui avait des vues extraordinaires et extraordinairement en avance sur son époque, qui s'intéressait d'ailleurs à la médiumnité, qui s'intéressait à beaucoup de choses.
Oui.
Il a été obligé de rester tout à fait en arrière de ses véritables recherches, parce qu'il était encore une fois coincé par son uniforme de prêtre catholique.
Oui, on l'a condamné aussi pour ses idées sur la christogénèse, enfin, je ne sais pas, sur le... Bon, ça ne correspondait pas aux idées des...
De l'époque, oui.
Oui, oui.
Mais oui.
Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prêtres, de vrais prêtres, qui manient facilement le pendule, hein. Bon, il y a ce qui est interdit...
Mais il y a des scientifiques qui manipulent le pendule aussi, hein. Il y a
une
université à Paris ou...
Rocard,
qui était un des pères de la bombache, hein. C'était pas n'importe qui, oui.
Et un fervent radiesthésiste.
Oui, oui. Mmh.
J'ai devant moi le livre de François Brune.
Oui.
Les morts nous parlent. Alors François Brune est un peu médiatique. Je l'ai vu, je crois, 2 fois à la télévision.
Il est très médiatique.
Il était intervenu dans des émissions sur l'étrange, sur les phénomènes, etc. Alors je ne sais pas si l'Église l'a pas encore condamné. L'Église.
Non, mais il a écrit un très beau livre qui n'est pas du tout celui-là, qui s'appelle Pour que l'homme devienne Dieu.
Oui.
Qui est un admirable livre sur la mystique. Bon, les autres ouvrages, c'est un peu.
Il l'a écrit en collaboration, d'ailleurs, avec quelqu'un.
Avec Chauvin.
C'est c'est ça, avec Rémi Chauvin.
Ouais, oui.
Oui, oui. Alors, oui. J'ai d'ailleurs près de moi aussi le livre de Rémi Chauvin sur le phénomène psy.
Ben, vous avez de très bonnes lectures, cher monsieur.
Non, non, mais c'est j'essaie de me faire une idée de tout ça, si vous voulez, de tous ces phénomènes.
Mais c'est ce que j'appelle une attitude intelligente. Hein, parce que les gens qui refusent, qui tranchent le dossier sans rien y connaître, ça, je trouve ça intolérable. Je supporte toutes les positions, sauf la mauvaise foi et le fait qu'on ne veuille pas essayer de s'informer et qu'on pérore avec autorité.
Alain, merci pour ta question.
Merci, mais enfin, on m'a pas répondu si ça pouvait avoir un caractère...
oui, bien sûr, excusez-moi, j'ai oublié. Alors, la tendance New Age, parce qu'on est en plein dans les New Age, que j'ai tendance à écrire Nouillage, N-O-U-I-2-L-A-G-E, a tendance à vouloir voir toutes ces histoires extraterrestres comme bénéfiques, ce sont nos grands amis, ils vont sauver la planète, etc. Et à ce propos, il y a eu un film américain qui montre très bien ce côté du phénomène. Je crois que c'est Independence Day. Lorsque les extraterrestres arrivent, la plupart des allumés américains montent sur le toit de leur immeuble, welcome, etc. On leur fait des gros bisous et puis là-dessus, on voit que les extraterrestres détruisent absolument tout ce qu'ils peuvent. Bon. Je crois qu'il est difficile de manipuler les notions de bon et méchant. Hein, c'est ce que vous êtes en train de parler. D'ailleurs, un chapitre de mon bouquin s'appelle « Sont-ils bons, sont-ils méchants ?» Donc, c'est vraiment un...
Ah oui, je n'ai pas lu.
C'est un problème qui m'a intéressé.
Je ne connais pas votre œuvre, mais bon...
Oui, mais pour en venir à ça, je ne crois pas qu'il faille se situer dans cette dichotomie un peu trop simpliste. Si on s'en tient au témoignage et au vécu de certains sujets, c'est tout simplement épouvantable comme mépris de la liberté, de la conscience, de l'autonomie des êtres, vous comprenez ? Ah oui, vous avez des gens qui vivent...
Traités pour quantité négligeable.
Ah, totalement, ils sont vraiment traités comme des cobayes avec une indifférence épouvantable, et je dirais presque que c'est là je fais un petit peu la différence entre ceux que j'ai tendance à considérer comme les vrais adultés et ceux que j'ai tendance à considérer comme des cas un peu moins certains. Et les cas un peu moins certains sont tout à fait dans cette mouvance. Je suis visité par les êtres de lumière, je channelise les êtres de lumière, tous ces extraterrestres sont charmants, vont nous sauver. Je ne suis pas tout à fait de cet effet, de cet avis, mais enfin, je respecte la position de tout le monde.
Hein. Alain, merci pour ton appel. Daniel est en attente depuis
tout à l'heure. Voilà, merci.
Au revoir, Alain. Au revoir. Daniel, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir.
Voilà, madame, j'aurais une petite question à vous soumettre, parce que vous m'avez l'air assez calé sur le sujet. J'aurais aimé savoir si il est possible qu'il y ait un lien direct entre toutes les religions que nous connaissons sur Terre et ces entités biologiques qui nous visitent depuis des millénaires, c'est-à-dire si toutes nos religions auraient-elles pu être créées par ces entités biologiques afin peut-être, je dis bien peut-être, de diviser l'humanité pour mieux la contrôler et la soumettre. Car à mon avis, je ne comprends pas pourquoi elles nous examinent, pourquoi elles nous enlèvent et pourquoi font-elles des expériences sur les humains contre notre propre volonté.
Oui, si elles ont vraiment touché 2 millions d'Américains déjà, d'après le Gallup.
3,7 millions.
Oui, donc c'est pour ça que je me pose vraiment cette question. Pourquoi font-elles toutes ces expériences si elles ont vraiment le désir de nous aider? Parce que lorsqu'on crée plusieurs philosophies de pensée par rapport à une religion ou par rapport à des religions, c'est surtout pour diviser l'humanité.
C'est une théorie assez à la mode là, que vous évoquez, monsieur.
Oui.
Il y a deux choses. D'abord, il y a tout le courant qu'on appelle dit des anciens astronautes. Et là, nous avons été visités depuis l'aube de l'humanité par des civilisations plus développées technologiquement que nous, et qui sont reparties. D'ailleurs, les humites, Jean-Pierre Petit, M. Pollion, sont repartis parce qu'ils étaient épouvantés par ce qu'on sait de notre planète. Il est bien évident, quand on regarde encore une fois l'histoire des religions, on peut vous dire que toutes les grandes histoires de religions sont issues de visites d'êtres
disait, dites extraterrestres, invisibles, etc. Les grandes révélations de Moïse sur lesquelles est fondé le judaïsme, d'ailleurs c'est pas Moïse qui a reçu le message, en réalité c'est Aaron, hein, parce que Moïse était bègue, il ne pouvait pas parler, donc c'est Aaron qui faisait le message. Bon, enfin, étape de la loi reçue par Moïse, par une main invisible qui imprime l'étape de la loi. Le Bouddha serait né parce que sa mère a été fécondée par l'oreille, de façon complètement invisible. De même que la naissance du Christ, Jésus, la vie de l'ange, etc. Vous regardez toutes les religions, le grand corpus des religions nous est amené par des expériences avec l'invisible et avec les extraterrestres. Quoi que ce soit que vous mettiez derrière ce mot.
Pratiquement toutes les religions, même inclus judaïsme, chrétienne, musulmane, bouddhiste,
ils
parlent tous de chariots de feu.
Chariots de feu, oui, bien sûr.
Toutes.
Mais oui, mais absolument, c'est les vimanas de la tradition indienne sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et qu'on trouve dans les textes védiques qui ont 6000 ans. Et quand vous étudiez ces textes de près, vous voyez, ce qui est très extraordinaire, que les êtres qu'il y a à l'intérieur de ces vimanas ont exactement les pouvoirs que nos abductés américains du 21e siècle attribuent aux aliens, c'est-à-dire ils s'expriment télépathiquement. Alors, on ne parlait vraiment pas de télépathie, hein, 6000 ans, c'est-à-dire ils parlent sans mots et le langage est compris et on n'a pas besoin de leur répondre, ils lisent les paroles. Bien. Ils se déplacent instantanément d'un point à un autre, exactement comme nos aliens. Ils peuvent transporter instantanément un sujet d'un point à un autre. Ils franchissent les murs, ils passent à travers les parois. C'est absolument extraordinaire. Regardez les textes, vous trouvez le Vimana Purana, vous serez sidéré par les ressemblances.
Mmh. D'ailleurs, si je puis me permettre, en 47, il y avait le secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis, je crois que c'était Forrester, à l'époque, lorsqu'il s'est suicidé en se jetant par la fenêtre de l'hôpital où il était hospitalisé, il avait écrit des documents qui sont d'ailleurs top secret aux États-Unis, par laquelle, lorsqu'il y a eu le crash à Roswell, il me semble, hein, j'ai lu ça sur un bouquin, par lequel il aurait communiqué par télépathie avec une entité biologique qu'ils auraient récupéré, qui était vivante à l'époque, et qui aurait expliqué au secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis, du temps de Truman, qui était président des États-Unis, comment ils auraient pu créer l'humanité à partir de l'ADN.
Oui.
Tout le système.
Vous faites allusion d'ailleurs à l'affaire de MJ-12, le Majestic 12.
Voilà, Majestic, voilà.
Dont on sait malheureusement que c'est un faux maintenant, puisque la signature de Truman s'était prouvé que c'était un faux document. Enfin, c'est une affaire très complexe, sauf qu'il y a beaucoup de rumeurs. Mais alors, ça vous intéressera sans doute de savoir, c'est que dans la tradition sumérienne, la tradition sumérienne relate la Genèse d'une façon beaucoup plus développée que la Genèse hébraïque. Il est bien évident que la Genèse sumérienne a influencé les récits bibliques parce que Sumer était une civilisation très généreuse qui faisait connaître ses écrits, sa culture, et les Hébreux, au moment de la captivité à Babylone, c'est évident que les Hébreux ont pris connaissance des grands mythes bibliques, l'Atra Aziz, etc., les Nouma Elish, et dedans, il est précisément raconté le début de la Genèse, c'est-à-dire comment on a créé Adam. Alors, il n'y a quand même pas de hasard, le texte biblique nous dit que, au début, le Dieu prit de la terre, lui insouffla de l'esprit, etc. Bon. Savez-vous comment on dit terre, ou plus exactement argile en sumérien? Ça se dit Adama. Et le texte sumérien explique de façon extraordinaire comment les venus du ciel, ce qui dans la tradition biblique devient les Elohim, parce qu'Elohim est un pluriel, les venus du ciel ont créé la race humaine pour leur servir d'esclaves en se servant de leur propre matériel génétique mélangé à celui de grands primates. Et c'est tout à fait étonnant quand vous regardez la Bible, le Dieu des Juifs a établi Adam pour être son jardinier, point à la ligne, hein, ne croyez pas autre chose, hein, et il était prié d'être le jardinier terminé. Et dans les textes sumériens, il devait exactement cultiver la terre pour nourrir les dieux. Si les dieux avaient besoin d'être nourris, c'est qu'ils ne devaient pas être tellement éthérés. Nous retrouvons des mêmes racines toujours partout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que je me suis embarquée.
Si, parfaitement, parfaitement. Bien, je vous remercie beaucoup, madame.
Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bonsoir, Alain. Ah, Marie-Thérèse de Brosse nous fait le signe du départ. Un signe muet, mais télépathiquement tout le monde aura pu comprendre. C'est pas très radiophonique, mais ça veut dire je vais me diriger vers la porte. On va le regretter.
Oh, je peux rester jusqu'à 8h du matin. Bon. C'est bien.
Oui, sauf que nous n'irons pas nous-mêmes jusque-là. Allez, on donne une dernière fois le standard. 0145 75 44 44. Je le dis très vite, comme ça personne n'a le temps de noter. 0145 75 44 deux fois. Le chatroom continue à s'animer sur ici-et-maintenant.com. Passez le mot bouche à oreille, c'est le moyen de nous entendre hors de l'Île-de-France. Si vous avez envie de faire participer vos amis ou qui se trouvent dans le monde à l'une des prochaines émissions, vous pouvez leur signaler par email ce site ici-et-maintenant.com. Toute petite pause musicale, non? Pendant attendant que Alex Régis nous connecte l'intervenant suivant, je voulais demander à Marie-Thérèse de Brosse si elle a vu ou si elle se souvient avoir vu le film de John Carpenter où il est question de lunettes très spéciales qui permettent de voir à travers le visage doux et pacifique des passants dans la rue d'effroyables monstres qui...
Ah, mais qui oui, bien sûr, je me souviens comment est-ce qu'il s'appelait, bien sûr, j'ai vu ça.
Et les affiches de publicité qui, lorsqu'on est, on a chaussé ses lunettes, se transforment en fait en textes subliminaux indiquant qu'on doit à tout prix se taire, ne pas révéler l'existence, leur présence parmi nous. Et il y a derrière les affiches de pub des messages, simplement, impératifs. Ils ont des faces grimaçantes et ils s'aperçoivent que un terrien a mis la main sur une boîte contenant des lunettes.
Remarque, il y a beaucoup de rumeurs sur la publicité subliminale, mais rumeurs qui ne sont pas totalement infondées. On avait quand même des expériences très intéressantes avec le whisky Gilbert, avec je ne sais plus quelle marque de
gin. Les
gin. Oui, les glaçons.
Gilbert.
Le whisky Gilbert et le gin, je ne sais plus, mais quand on décode effectivement les images, on s'est aperçu que c'était très intéressant. La publicité subliminale ne jouait plus sur Eros, qui, croyait-on, était le grand moteur de la publicité, mais jouait beaucoup plus sur Thanatos, l'instant de mort. Et le décodage des images subliminales qui fait qu'on, effectivement, on achetait ces produits, montrait des poignards, des têtes de mort, enfin, tout l'appareil de Thanatos, et non pas ce qu'on aurait pu imaginer de somptueuses créatures, de quelque sexe que ce soit. Hein. Ça marche, la publicité subliminale. On avait même taxé François Mitterrand d'avoir utilisé la publicité subliminale. Vous vous rappelez?
Oui, Captain Vidéo avait réalisé le générique du JT de 20h, et une image sur 25 faisait apparaître Mitterrand, effectivement, à cette époque, en pré-campagne. Nous recevons Michael.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je viens de tomber sur son émission juste il y a 10 minutes et je trouve cette dame donc, qui anime ce soir très intéressante. Je voudrais bien qu'on me rappelle son nom.
Marie-Thérèse de Brosse.
Marie-Thérèse de
Brosse. Avec un S à la fin.
Alors,
Marie-Thérèse
bonsoir,
de Brosse.
Marie-Thérèse.
Bonsoir, Michael.
Alors, moi, j'ai deux petites choses quand même qui m'ont fait un peu sursauter, si je peux me permettre. La première, c'est que bon, moi, je suis d'origine juive, donc j'ai étudié la Torah, un peu la Kabbalah, bien que ce soit pas une chose très importante que lorsqu'on est jeune en judaïsme, parce que quand même c'est une religion qui est basée sur la foi et non pas seulement sur des calculs mathématiques. Il y a une chose qui me surprend dans ce que vous avez dit, à savoir que quand bien même, et c'est fort probable, qu'il y aurait donc une vie dans, ou plusieurs vies dans l'univers, et qu'on puisse, que les religions puissent être, peut-être, qu'il y ait pu avoir des amalgames et tout ça, et que, effectivement, il y aurait des vies extraterrestres. Il y a une chose quand même qui me surprend, c'est que vous n'avez pas parlé de Dieu et de ce que pourrait penser Dieu de tout ça.
Comment est-ce que je pourrais parler de ce que Dieu pense?
C'est-à-dire que Dieu, dans ce que vous avez dit, Dieu, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de son intervention par rapport au fait qu'il y aurait des vies extraterrestres.
Attendez, comment est-ce que vous voulez que je sache ce que Dieu pense?
Non.
On ne connaît de Dieu que ce que les églises veulent bien en dire.
Oui, bien sûr.
Oui, ou ce que Jean d'Ormesson raconte dans son dernier bouquin.
Moi, je suis désolée, Dieu ne m'a pas parlé. Et il n'a pas parlé à grand monde, même si certains ont eu la chance de l'entendre. Mais tout ce qui est codifié dans les religions, ça ne vient pas directement de la bouche de Dieu. Ça vient quand même de la bouche des hommes qui ont retranscrit tout.
C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que Dieu s'adresse aux hommes à travers la prophétie.
Oui.
Quand vous dites « Dieu ne m'a jamais parlé », ça, vous ne le savez pas. Parce qu'il peut très bien s'être adressé à vous et vous...
Non, mais c'est par pudeur et avec une petite boutade que je dis ça.
Oui, bien sûr, je comprends. Et donc, moi, je me pose quand même une question, c'est que si on regarde le monde ne va pas très bien.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Donc, à un moment donné, on se demande ce que fait Dieu et pourquoi il n'intervient pas. Ça, c'est une grande question.
Mais il a peut-être d'autres chats à fouetter plus intéressants que nous, hein.
Non.
Enfin, on n'est pas les seuls, il nous aime, il nous a créés, il nous a laissé la liberté. Et si nous jouons mal de notre liberté, c'est de notre faute. C'est pas Dieu qui nous a obligés à faire des armes, à faire la guerre, à nous tuer, à créer des armes biologiques et à polluer notre planète. Il nous a laissé la liberté. Eh bien, la liberté, il y a des gens qui en jouent bien et il y a des gens qui en jouent mal. Et malheureusement, les terriens, dans leur grande majorité, jouent mal de leur liberté.
Bien sûr, ça on le sait dans le judaïsme, donc le libre arbitre, c'est une chose qu'on découvre tout de suite dans la Torah, on le sait très bien. D'ailleurs, Dieu nous avertit de choisir le bien et pas le mal.
Mais il ne nous a jamais obligés à choisir le bien, hein.
Non, il nous a conseillé de choisir le bien. Maintenant, ça, c'est pas vraiment le problème, parce que il y a des choses qu'on maîtrise pas, c'est-à-dire les événements, on les maîtrise pas. Ce qu'on maîtrise, c'est comment on va, réagir par rapport à un événement, parce qu'en fait, c'est ça. Les hommes, il y a des choses qu'ils vont pas demander et qui arrivent. Maintenant, il y a aussi des gens mal intentionnés. Bon, maintenant, c'est...
On va savoir si ce qui arrive n'a pas été demandé.
Moi, la question que j'aurais, c'est que, bon, il y aurait une vie extraterrestre. Il m'est arrivé déjà de voir des choses, ça m'est arrivé de voir. C'est assez bouleversant, et surtout pour des gens qui sont assez cartésiens ou qui ont du mal avec ce genre de choses. Ça m'est déjà arrivé. Maintenant, ça va pas bouleverser ma vie. Je l'ai vu. Ça s'est passé il y a 5 ans. Et combien même ça ne se serait pas passé, on peut de temps en temps réfléchir sur l'univers et se dire que quand même il y a obligatoirement d'autres vies. En tout cas, on pourrait ne pas en douter.
Mais donc, écoutez, on en doute tellement peu,
ouais,
que d'abord on a envoyé, avant même la découverte des planètes extrasolaires, on a envoyé un message aux éventuelles civilisations extraterrestres, puisqu'on leur a envoyé le théorème de Thalès, un dessin de Léonard Vinci, un extrait de la 9e symphonie et la Calas. Se balader dans l'espace, c'est pas pour le bonheur, c'est dans l'espoir qu'un jour une civilisation le captera. Et s'il y a maintenant le programme Megaceti, je vous signale, il y en a peut-être moins en France, mais enfin j'ai quelques amis qui sont branchés là-dessus, il y a des milliers, qu'est-ce que je dis, des centaines de milliers d'ordinateurs...
Non, il y en a 3 millions, exactement.
Qui se mettent à la disposition de Megaceti pour essayer de capter une éventuelle civilisation extraterrestre. Ça veut bien dire qu'on y croit. Et tous les astronomes qui avaient un langage pur et dur en disant « ce sont des débiles qui croient », etc., maintenant, ils commencent à se faire tout petit, hein.
Et pourquoi les chercher alors qu'on sait très bien qu'ils viennent même nous visiter? Et que vous avez parlé d'observation, il y a plein de phénomènes, il y a plein de gens, il y a plein de témoignages, j'en ai eu autour de moi, mais bon, il y a beaucoup d'allumés, donc il faut faire attention aussi. Mais sérieusement, c'est évident que ces gens-là nous ont trouvés, quand bien même nous on serait à leur recherche, eux nous ont déjà trouvés. Pourquoi il y a trop de mystères? Qui est au courant de ça? pourquoi ça reste quelque chose de caché? Est-ce qu'on est sous observation? Pourquoi? Et ma question, c'était pourquoi Dieu n'intervient pas si, par exemple, ces gens étaient mal intentionnés et que l'homme sur Terre se faisait en...
Est-ce que vous me permettez de vous prendre au piège de votre propre logique?
Ouais.
Bien. Pour vous, Dieu est le créateur de l'univers, des choses visibles et invisibles. Vous, vous êtes d'accord?
De toutes choses dans l'univers, il est omniscient.
Bon, alors, attendez, laissez-moi continuer quand même. Mm-hmm. Il n'a pas que créé la Terre. S'il y a d'autres, je mets ça au conditionnel, s'il y a d'autres civilisations qui viennent nous visiter, c'est qu'elles viennent d'autres planètes,
oui,
qui ont été créées par qui? Par Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu empêcherait d'autres planètes de venir nous visiter, nous faire du mal, alors que nous, on ne s'est jamais privé de faire du mal ailleurs? Nous nous sommes jamais privés de torturer toutes sortes d'animaux, toutes sortes de végétaux qui existent, et toutes sortes d'humains. Sans que Dieu intervienne, pourquoi est-ce que Dieu interviendrait pour empêcher d'autres civilisations de nous venir nous rendre le mal que nous passons notre temps à faire sur Terre? Soyez un petit peu logique, monsieur.
C'est
Michael.
Pas bête, c'est pas bête, mais alors je pourrais vous répondre.
Oh ben répondez-moi.
Alors, effectivement, maintenant, est-ce qu'il a créé l'homme pour que l'homme souffre et qu'à un moment donné il intervienne? Vous pensez que Dieu n'intervient jamais dans les histoires de l'homme? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il serait pas là à faire rempart à... un danger, on sait très bien dans le judaïsme que Dieu intervient à chaque instant, à chaque minute, il renouvelle le monde, la molécule.
Mais son intervention fait partie d'une non-intervention, si vous voulez.
C'est-à-dire ?
Il n'a pas à intervenir dans... C'est lui qui a décidé qu'il crée l'homme libre, doté d'un libre arbitre.
Bon.
Il y a une grande naïveté de temps en temps, c'est terrible à dire, lorsqu'on entend des gens prier pour demander quelque chose. Nos actes nous suivent, notre karma nous suit, tous nos actes, toutes nos pensées. Vous ne pensez pas impunément du mal de votre voisin sans que ça change quelque chose en vous. Vous ne souhaitez pas impunément du mal de qui que ce soit. Vous ne pouvez pas avoir la moindre pensée sans que ça ait ses conséquences. Et ces conséquences se répercutent de génération en génération. Mais Dieu n'a pas à intervenir. Sinon, il ne nous aurait pas donné notre libre arbitre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne voulez pas accepter ce point de départ sur lequel vous vous fondez.
Mais non, moi, je suis pas, j'ai pas dit que j'acceptais pas, mais par contre, là, vous parlez de prière. Ça, pour vous, la prière est inintéressante, globalement.
Pas du tout. La prière intéressée, il y a deux formes de prière. Je veux dire, par exemple, pour moi, là, ça c'est mon avis.
Oui.
La prière la plus belle est une prière de Claudel. Claudel est rentré dans une église, il s'est mis au pied d'une Sainte Vierge et lui a dit « Je ne viens pas vous prier pour vous demander quelque chose, je viens simplement vous regarder parce que vous êtes l'Immaculée. » Bon, catholique, converti, il s'adresse à la Sainte Vierge, qui a moins d'importance, c'est bien évident pour vous, mais on peut prier pour remercier. On peut prier pour élever son âme au point de vue vibratoire. On n'est pas là prier pour demander. C'est terrible, toujours demander.
C'est pas mon propos, hein. C'est moi je parle de peut-être demander aussi la paix et de prier pour que Dieu instaure la paix dans le cœur des hommes. C'est pas idiot.
C'est pas à Dieu d'instaurer la paix dans le cœur des hommes. C'est à nous de mettre la paix dans notre cœur. Chacun, et si chacun faisait ce travail sur lui-même, c'est toute la planète qui changerait. Seulement, la planète ne peut pas changer s'il n'y a pas un effort personnel fait par chacun. Mais ça, c'est mon idée. Peut-être que je me trompe.
Bah, je vous rejoins complètement, mais en même temps, ça serait bien si vous alliez aussi de mon côté, c'est-à-dire... Je pense qu'il y a des deux, c'est-à-dire que l'homme, il doit pas achever ce monde, puisque c'est ça en fait un peu l'histoire, c'est de grandir l'homme en demandant un peu à l'homme de parachever l'œuvre de Dieu, et donc de faire de ce monde un paradis et pas un enfer, ce qui est, pour l'instant, on est à la fois proche et loin.
On nous avait donné le paradis au départ, c'est nous qui en faisons ça, nous sommes responsables.
Oui, je suis d'accord, mais en même temps, prier et demander à Dieu... d'instaurer la paix dans le monde, c'est pas une chose vaine, et je pense que Dieu a assez de bonté en lui pour écouter l'homme le plus
Mais c'est en le demandant qu'on l'installe, ça veut pas dire que quelqu'un intervient pour le faire.
Mais qui vous dit qu'il n'intervient pas, qu'il n'écoute
mais
pas?
Tu es partisan d'un Dieu interventionniste,
Non, attention, oh là là.
J'ai envie de penser que la liberté conditionnelle, ce n'est pas de l'amour, simplement.
Non, mais je pense qu'une prière n'est jamais vaine, déjà. et que effectivement les actes sont aussi très importants. Il suffit pas de prier.
Oui. Si effectivement, il commence par transformer l'homme lui-même.
Voilà.
Bien, Michael. Oui. Merci pour ton intervention. On a Laure qui attend depuis tout à l'heure.
D'accord. On va la laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est très intéressant, vraiment.
Merci, Michael.
Je vous suis prêt. Hein. Au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée, madame. Au revoir.
Au revoir.
Laure.
Oui.
Bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour, Laure.
Effectivement, c'est intéressant ce genre de débat. Ça nous enrichit dans notre recherche, notre curiosité. Et donc, il y a plusieurs sujets que j'aimerais. En fait, là, pour revenir juste sur le fait de prier, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de prières que l'on peut faire. Hein. Il y a la prière simplement pour dire merci, pour contempler, il y a la prière pour demander, puisqu'il est aussi conseillé de demander. Il y a toutes sortes de prières possibles. Hein. Enfin,
tout à fait.
Je crois que prier, ça veut dire, c'est plutôt dire demander, mais il y a toutes sortes. Ce que je voulais dire, c'est ce qui m'a donné envie d'appeler, c'est le fait de. Quand vous avez parlé du Sumérien, de l'origine de la Bible, plus ou moins.
Oui.
Et de l'homme qui était fait pour être dans un jardin, pour cultiver un jardin. C'est vrai que je pense vraiment que ce que les Hébreux ont, ça remonte de très loin, et qu'ils l'ont pris d'ailleurs, etc., etc. Plusieurs civilisations ont transmis des choses, quoi. Certains ont laissé des traces et puis on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que c'est de moins en moins, c'est moins complet pour nous, parce qu'on est... C'est comme un peu passer un message oralement à quelqu'un, au fur et à mesure, on perd de la richesse, on perd des données. Donc, je pensais aussi vraiment que Moïse, lui, il avait, pour moi, c'est Moïse avait été instruit par les Juifs, par les Égyptiens, puisqu'il avait été avec, il avait été éduqué par eux, et qu'eux étaient beaucoup en contact avec le monde spirituel. C'est pour ça qu'ils avaient tous leur fameux Dieu, tout leur esprit, etc. Et que lui, ils l'ont eu d'eux, eux l'ont eu d'avant. Enfin, ils ont su garder ça d'avant, etc., etc. Et quand il a eu la révélation de Dieu, je suppose que c'est là qu'il est devenu bête, parce que ça a dû lui faire un choc. C'est à coup Dieu qui dit, écoute ce que t'as appris, il y a des parts de vérité, mais de Dieu, c'est pas Pharaon, c'est moi. Alors lui, il a dû être super perturbé, de se rendre compte que ce qu'il avait appris, il fallait qu'il regarde ça sous un autre œil. Et ce que je voulais dire, c'est par rapport au jardin, le fait que l'homme soit jardinier, enfin, je pense, je suis assez sceptique qu'il soit jardinier pour Dieu, ou pour Dieu, qu'on pourrait considérer comme extraterrestre, parce que les fruits qu'il cultive ne sont pas faits pour être consommés par quelqu'un du matériel. Ils sont faits pour être consommés par quelqu'un de matériel, donc par lui et sa descendance. Donc il cultive, l'homme, son propre jardin. Quand Dieu mit plusieurs fruits, j'ai aussi été surpris, bon nous on traduit ça comme ça parce qu'on n'a pas tout à fait compris encore, quand il dit tu peux manger de tous les fruits sauf de un, et puis à un moment donné, quand l'homme est influencé pour manger les mauvais fruits, ce que Dieu fait, il empêche l'homme de toucher tout de suite au fruit de la vie éternelle, pour que l'homme ne soit pas immortel. Et c'est après quoi aujourd'hui nous courons toujours, après l'immortalité. Alors, bon, déjà, ça va.
C'est une traduction assez approximative, parce que quand on regarde le texte sérieusement, d'abord, c'est un symbole, hein, manger. Quand vous mangez quelque chose, vous l'incorporez.
Quand j'ai fait partie,
voilà, manger le fruit de l'arbre du bien et du mal, ça veut dire que vous incorporez cette connaissance.
Mm-hmm.
Bon. Par la suite, il n'est pas question de refuser à l'homme l'immortalité, seulement les dieux, parce que le texte dit bien les, et non pas
oui,
dieux, hein, parce que Elohim est le pluriel hein, de Eloah. Donc c'est encore une manipulation d'église d'avoir traduit Elohim par Dieu, il aurait fallu traduire par les dieux. Et les dieux se disent, maintenant il va devenir comme l'un de comme nous.
Mm-hmm.
C'était ça, et d'où la punition. Mais il n'était pas question d'éternité là, hein.
Mais Dieu dit que voici l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le maintenant de toucher aux fruits de la vie éternelle. Il est devenu, il connaît entre le bien et le mal. Je suppose que l'homme a mangé un peu trop tôt. Si Dieu a mis l'arbre là, c'est que l'homme devait y toucher, mais pas tout de suite. Comme une maman peut-être dirait à son fils quand il y a ça, mais t'es pas encore le temps pour toi de le prendre. Plus tard, quand tu seras assez fort, etc., tu pourras toucher à ça, mais c'est là. Et bon, on n'a peut-être pas compris, on l'a pris trop tôt, et c'est là qui fait que... Si on était immortel, vous imaginez, on serait en train de se faire du tort tout le temps, sans jamais mourir, sans jamais... Enfin, c'est assez...
Mais ça serait la pire horreur, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est la pire horreur,
voilà,
l'immortalité.
Voilà, donc Dieu a arrêté ça, alors qu'avant, on aurait pu l'être, avant de consommer cette chose-là. Enfin, bref, on a choisi à l'envers. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que, dans la traduction, c'est que Elohim est devancé par un singulier... C'est pour ça qu'ils ont du mal à traduire, parce qu'il y a un singulier et un pluriel. Alors c'est super compliqué de traduire que un et plusieurs. C'est un,
que ça veut dire vraiment, c'est quand il dit celui, l'unique et plusieurs. Moi, j'ai pu comprendre, enfin, pour moi, pour comprendre cette chose, c'est que moi, je suis plusieurs, effectivement. J'ai un esprit, une âme et un corps. Pourtant, je suis une entité. Et Dieu, c'est, j'ai l'impression que c'est pareil. Et qu'eux, ils se disputent pas. Je veux dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas en désaccord. Donc, moi, mon corps peut vouloir une chose, et ma raison, mon intellect en désirait une autre, et puis mon esprit, qui est aspiré par tout ce qui est spirituel, en désirait encore une autre. Alors, moi, j'ai envie de dire que Satan nous a bien arnaqué en divisant l'homme pour que l'homme ne sache jamais, pour qu'il ne soit pas entier dans ce qu'il veut. L'enfant, on nous dit souvent, l'enfant, quand il est content, quand il est mécontent, il est entier. Il n'y a pas de division. C'est pas, il vous sourit, et en vérité, dans le cœur, il pense autre chose. Alors, il y a pas mal de choses à comprendre. Puis moi, ce qui m'intéresse, que je voulais dire aussi, c'est l'histoire des des enfants qui ont vu chacun différemment, comme vous l'avez traduit, selon ce qu'il était croyant, ou un petit peu religieux, ou assez religieux à cause de ses parents. Pour moi, les extraterrestres, c'est simplement, on cherche des êtres qui sont peut-être biologiques, mais je crois qu'on va un peu trop loin. Les extraterrestres, pour moi, ce sont les anges, tout ce qui n'est pas humain, donc tout ce qui est ange ou démon, tout ce qui n'est pas matériel, c'est eux les extraterrestres. Il y en a qui viennent et qui ne sont pas autorisés de venir et qui viennent pour nous arnaquer. Pourquoi est-ce qu'ils nous enlèvent? C'est simple, la Bible nous dit que, enfin je suppose, pour moi c'est simple, qu'il y a ceux qui veulent des corps. Ils veulent avoir apparemment, enfin absolument un corps. Ils ont envie de l'homme. Quand on dit bien que Satan envie l'homme, et puis Lucifer envie l'homme, c'est ce qui l'a rendu un peu jaloux, etc. Ils veulent pouvoir se déplacer sur cette réalité terrestre qui est la nôtre, parce que c'est super génial. Ils ont beau être super extraordinaires, mais ils ne sont pas plus que nous, malgré tout. Ils veulent un corps. Alors comment faire pour obtenir un corps? Ils se serviront de l'homme, de l'intelligence de l'homme, de nos scientifiques, pour qu'on puisse créer, leur ouvrir une possibilité de rentrer, de se matérialiser et d'être ici. Et ce n'est pas leur place. Pour ceux qui sont déchus, hein, ce n'est pas leur place. Et puis en même temps, le fait que ces enfants voyaient différemment, j'ai envie de dire, pour moi, c'est plutôt un démon qui est venu, qui passe son temps, enfin, des anges déchus qui passent leur temps à arnaquer les hommes. Parce que la vérité, elle est toujours perçue identique pour tout le monde. Quel que soit ce que je crois, ce que je pense, la vérité restera toujours la même. J'essaierai de la traduire au mieux possible, mais là, si l'un voit Marie, l'autre voit autre chose, ça veut dire que celui qui s'est montré essaie de se faire passer, essaie de tromper ceux qui voient pour qu'ils puissent chacun apporter un témoignage différent, parce que les gens qui voient Jésus, ou qui voient leur mort, ou etc., ne voient toujours qu'une seule personne. Ils ne disent pas, bon, moi j'ai vu une personne, moi j'ai vu ceci. Il se montre tel qu'il est, c'est toujours lui. Certains vont dire, oh, j'ai vu un homme comme ça. L'autre va dire, oui, j'ai vu un homme, mais qui comme ça. Ils auront vu la même chose. Enfin, j'espère que j'arrive bien à m'exprimer. Alors, pour moi, c'est simplement quelqu'un, un ange déçu, qui est venu arnaquer les gens. Donc, pour un, c'était Marie, pour l'autre. Il n'y a que le menteur qui fait qu'on ne se comprend pas, et parce qu'il montre plusieurs visages, et puis il essaie plutôt de nous mettre de la pommade et d'être d'accord avec les uns, avec tout le monde, alors celui qui veut l'hériter. C'est ça, et puis on a vu ça, on n'a pas vu autre chose, quoi.
Ok, alors, sans commentaire.
Et puis
on va arrêter là.
D'accord, ok.
On va arrêter là. J'ai bien prévenu d'une certaine manière tout à l'heure en disant, allez, je vais donner une dernière fois le numéro de standard. C'était il y a plus d'une demi-heure. Et en réalité, voilà, on s'achemine vraiment vers la conclusion. D'accord. Merci de ton intervention, Laure.
Ouais, merci beaucoup. Hein.
Donc, sans commentaire, juste chacun exprime son truc. Ça ne relance pas forcément un débat. Voilà, le mot de la conclusion, je crois qu'il appartient à Marie-Thérèse de Brosse. C'était en 78, voyons si elle conclurait pareil aujourd'hui.
La grande découverte de la parapsychologie, c'est finalement qu'elle sonne le glas d'une conception mécaniste du monde. Et le physicien James Jeans avait une très belle phrase, il disait le courant de la connaissance nous achemine à concevoir que l'univers ressemble beaucoup plus à une grande pensée qu'à une grande machine. Évidemment, il y a révolu le temps où on pensait que la ligne droite était le plus court chemin d'un point à un autre, que le métal le plus lourd était le mercure, etc., que la lune était réservée aux utopistes et aux rêveurs, avec notamment l'apport de la physique quantique qui bouleverse absolument toutes nos conceptions, portant des notions d'acausalité et d'inversion du temps. Et puis surtout, il y a cette chose très importante pour nous, je crois, c'est une interdépendance universelle, mais au niveau de toute la planète et de tout l'univers. C'est-à-dire que nous avions toujours appris qu'il y avait le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Maintenant, ce n'est plus vrai. Il y a le vivant. On a enregistré les effets du stress sur le fer blanc, sur des pierres. On a fait des expériences sur des plantes qui prouvaient qu'elles avaient des réactions. Enfin, notre conception du monde tremble complètement sur ses bases. Nous allons vers un nouvel avenir de l'homme complètement intégré.
Oui, à propos des plantes, cette interconnexion peut être prouvée en posant des électrodes sur une plante, en arrachant une feuille, ce qui est très vilain, et en allant à l'autre bout de la pièce, piquer cette feuille ou la brûler. Alors les électrodes enregistrent les réactions de la plante.
Beaucoup plus étonnant que ça, Didier. Il n'est pas besoin même d'arracher une feuille à une plante. Vous pouvez simplement avoir envie d'arracher une feuille et d'être décidé à le faire. La plante devine et le tracé montre qu'elle est inquiète. C'est ça l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'amour et effectivement nous sommes tous dépendants les uns des autres. Et dans les expériences qui sont faites, qui cherchent à grouper des pensées pour changer quelque chose, où nous rejoignons exactement les travaux des chamans d'Amérique, qui ça peut sembler dérangeant pour nous, mais arrivent à faire pleuvoir, alors que les météorologues sont là pour dire qu'il ne peut pas pleuvoir et qu'il pleut. C'est cette grande force et cette grande communion, je dis ça sans le sens chrétien au catholique du terme, cette grande communion des hommes qui bouleverse maintenant toute leur existence.
Alors Marie-Thérèse de Brosse, c'était une belle conclusion pour 78, mais ce soir on aura droit peut-être à une anecdote.
Ah, écoute,
pour conclure,
ça m'a beaucoup amusé de voir que je changerais pas un mot de ce que je disais il y a, je crois, plus de 20 ans. Hein. Bon, mais à propos de chaman, parce que je parlais de chaman à une époque où personne n'en parlait, il y a chaman qui change le temps. Je voudrais quand même faire partager à vos éditeurs une expérience étonnante que j'ai vécue il y a 3 ans chez les bouddhistes, chez Lama Denis en Savoie. Le Dalai Lama devait venir donner des enseignements et pour l'écriture d'un livre, j'avais la chance d'être logée en haut dans le monastère avec les moines et les quelques grands ténors des différentes religions, puisque toutes les religions étaient représentées, hindouisme, islam, religion juive, catholique, toutes et évidemment toutes les animistes, tout le monde était là. Et au stupeur, alors que par la brume et en plus j'ai horreur de me lever le matin, vers les 7 heures du matin, je me dirige en haut vers le temple pour faire ma méditation, j'entends dans la brume quelqu'un qui m'interpelle en russe, et au stupeur, je retrouve, et le nom ne s'invente pas, Falek, un chaman tungus que j'avais connu en Sibérie. Heureusement qu'il m'avait reconnu, moi j'aurais jamais reconnu. Et je parle avec lui, et c'est un grand chaman. Et cet été-là, il faisait une sécheresse absolument dramatique. Et je bavarde avec Falek, et je lui dis, oh, ben, tu sais, ce serait merveilleux si tu pouvais faire pleuvoir. Il me dit, quoi, tu as envie que je pleuve, que je fasse pleuvoir? Je lui dis, oui, est-ce que tu peux? Elle me dit, ben, je sais pas, il faut que tu m'emmènes pour que je vois où je peux appeler les ancêtres. Je l'emmène faire un petit tour en voiture. Il me dit, oui, oui, ça va très bien. Alors, ramène-moi dans ma cellule, que je prenne mon tablier, mon tambour, etc. Et évidemment, je préviens différents amis qui étaient là, dont quelqu'un que vous devez bien connaître, Patrice Van Hersel. Ciel bleu, sans nuages, absolument extraordinaire. Et la sécheresse était dramatique. Et voilà mon Falek qui s'installe avec son tambour, qui appelle les grands esprits, et qui me dit... Dans 2 heures, le déluge. J'arrive au monastère, je dis ça aux moines qui me disent « Malheureuse, mais c'est épouvantable, sa sainteté arrive, et sa sainteté ne peut pas arriver sous la pluie. » Grand ciel bleu. Étant donné, on savait que les enseignements du Dalai Lama étaient donnés en bas, nous étions en haut, et en bas, il devait y avoir quelques 6000 personnes qui devaient prendre les enseignements et les confrontations interreligieuses. Panique dans le monastère. Et les moines décident de faire une contre-cérémonie pour empêcher la pluie de tomber. Et voilà, mon Falek qui se met en colère, il me dit, écoute, tu n'es pas sérieuse, tu me demandes de déranger les grands esprits pour rien, pour annuler, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on ne dérange pas les esprits. Me voilà évidemment très ennuyé. Tous les moines sortent avec leur tibia, leur trompe, leur machin, etc. Et Falek me dit, moi ce que je peux faire, c'est retarder la pluie, mais je ne peux pas la retarder plus que midi. Je ne peux pas. Et sinon, bon. Nous assistons tous, les moines dans un état d'affolement total, parce qu'évidemment, le Dalai Lama qui arrivait, il arrive comme un chef d'État avec des motards, des voitures officielles. À midi moins 5, il y avait une grande tente tibétaine où on faisait nos méditations et nos repas, puisque nous n'étions pas avec les gens. Un vent se lève et une pluie diluvienne s'abat sur le monastère. Je téléphone avec des amis qui étaient à 100 km de là. Ciel bleu partout, Paris, ciel bleu partout, il n'a plus que là. Alors ça, il y a des témoins, parce qu'il y avait je ne sais combien de personnes, de ce ciel bleu, c'est quand même Falik qui a fait venir la pluie.
On m'avait dit que le séminaire s'était terminé dans la Gadoue, mais je ne
connaissais pas l'origine. C'était la Gadoue, ça a été dramatique d'ailleurs.
Merci Marie-Thérèse de Brosse.
Si vous me permettez, je vais vous citer une histoire, un cas, encore une fois, qui a très bien été enquêté par la police, parce que votre histoire m'y fait penser, parce qu'elle a un côté un petit peu conte médiévaux. Et pour moi, c'est sans doute un des cas les plus forts des enlèvements. C'est le cas de Higdon. Higdon était un chasseur et qui aimait particulièrement chasser l'élan. Alors un jour, il part avec sa voiture, il garde sa voiture et à peine sorti de sa voiture, dans la forêt, il voit deux élans magnifiques. Et ce salaud qui est chasseur, bon, très bien, prend son fusil, et au moment où il épaule, tous les bruits de la forêt s'arrêtent. C'est-à-dire qu'il n'entend plus les oiseaux dans les arbres, il n'entend plus le vent, il n'entend plus rien. Il tire, et encore une fois, il y a une enquête de police en béton. Hein. Et à sa stupeur, la balle, au lieu d'aller frapper l'élan, part tout doucement, tout tranquillement du canon et tombe par terre mollement. Higdon, stupéfait, heureusement pour nous d'ailleurs, ramasse la balle et la met dans sa poche. Détail très important, donc il ne s'est visiblement pas brûlé. Et quand il regarde les élans, ce ne sont plus des élans. Il y a une espèce de créature assez monstrueuse. On dirait vraiment un conte de fées du Moyen-Âge, mais c'est tout à fait sérieux. Une créature assez monstrueuse dont le bras se termine par une sorte de baguette. Et l'entité lui dit « Comment vas-tu ?» Vraiment, c'est très intéressant quand on voit une créature absolument effrayante qui vous demande simplement « Comment vas-tu » Higdon bredouille « Bien ». Et l'entité lui tend, ça c'est maintenant on passe dans Alice au Pays des Merveilles, lui tend une boîte de pilules qu'il lui lance et lui dit « Mange, tu en auras besoin pour le voyage. » Et il donne, comme dans Alice au Pays des Merveilles, avale les pilules. Et sans transition, parce qu'il y a toujours des trous dans ces histoires-là, comme dans les rêves d'ailleurs, il se retrouve dans un ovni qui part à toute vitesse, et à l'intérieur, les créatures sont de temps en temps des créatures, tantôt des élans. Et la soucoupe volante, oui, non, Didier se marre, mais moi, c'est une affaire admirable, et vous rirez moins tout à l'heure, Didier.
Il cueillait les champignons, lui.
Il arrive dans une cité complètement cristalline, et là, on arrive dans le récit de science-fiction. Des tours en cristal, etc. Et il se retrouve, comme tous les enlevés, à l'intérieur d'une pièce sur une table où les aliens, comme d'habitude, se livrent à leur petit passe-temps habituel, c'est-à-dire ils lui enlèvent sa culotte, ils commencent, etc. Et ils sont fous de rage en examinant le sexe de Higdon et lui décrètent « Tu ne fais pas l'affaire ». Et en l'espace d'un instant, Higdon se retrouve dans la soucoupe qui file vers la terre et à un moment, une trappe s'ouvre et Higdon est précipité dans le vide. Avec de sérieux dégâts, clavicule cassée, etc. Il se trouve dans un coin de forêt qu'il ne connaît absolument pas. Et au loin, il repère un camion. Il rampe, il n'y a personne. Heureusement pour lui, Higdon est sibiste. Et il appelle, avec la CB, il appelle la police en disant « Je ne sais absolument pas où je suis. » encore une fois, j'abrège cette histoire qui était absolument formidable. Et la police arrive à le retrouver, mais, petit détail tout à fait surprenant, Higdon n'est pas dans un camion inconnu, il est dans sa propre voiture. Seulement, sa propre voiture flotte sur une espèce d'îlot vaseux au milieu d'une île, auquel les pompiers ne peuvent pas avoir accès. On ne comprend pas comment la voiture n'a pas coulé. Donc, les pompiers appellent les hommes, les flics appellent les hommes grenouilles. Et c'est par la police qu'on connaît cette histoire, d'ailleurs. C'est par la police que le professeur Sprinkle, professeur de psychologie, est arrivé là-dessus. Sauvetage de Higdon, qui évidemment est emmené à l'hôpital, parce qu'il a quand même, dans sa chute, subi quelques traumatismes. Et la première chose qu'on fait à l'hôpital, parce qu'évidemment, dans l'ambulance qu'il conduit à l'hôpital, Higdon parle de cette histoire. Alors évidemment, il est sous le choc. Les premiers réflexes des policiers, cet homme est ivre ou drogué, pour raconter des salades pareilles.
Je me permets de vous interrompre. Il tombe, il rampe, il a la clavicule... Il rampe longtemps, parce que si c'est un îlot...
Alors lui n'a pas traversé l'eau dans son récit. C'est extravagant. Non, mais c'est pour ça que ça a intéressé la police, oui.
En clair,
on peut ramper. Moi, j'ai eu un accident. J'ai eu un accident de moto. Je peux vous dire qu'avec une clavicule cassée, on peut ramper. Hein. Bon. Donc, il est à l'hôpital. On s'aperçoit qu'il n'est pas drogué. Fait de prise de sang, il n'est pas alcoolique. Mais il a ses papiers. Donc, on appelle sa femme. Évidemment. En quête de moralité, Higdon est un citoyen parfaitement respectable. Et quand Higdon peut sortir, la femme demande le dossier médical et entre dans une violente colère en disant « Ça, ce n'est pas le dossier de mon mari. »« Mais si, c'est le dossier de mon mari. »« Ah, permettez. »« Mon mari touche une pension d'invalidité car il a un poumon très abîmé. »« Il a un poumon qui est quasiment mort. »« On ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour lui. » Et vous me présentez les photos d'une cage thoracique. Évidemment, on avait photographié la cage thoracique parce qu'il était quand même un peu fêlé de partout. D'un individu qui a deux poumons normaux. Les médecins s'en foutent, on refait une radio. Higdon a les deux poumons totalement normaux. Il avait un problème de calcul dans la vésicule biliaire. Les calculs avaient disparu. C'est le professeur Sprinkle de l'université du Laramie qui se déplace. Il a entendu parler de cette affaire par les flics, parce que les flics n'ont jamais entendu parler qu'une voiture puisse flotter sans couler dans un truc de vase. Ils sont arrivés avec une échelle. Enfin, c'était l'opération sauvetage. J'en parle longuement dans mon livre parce que c'est un cas qui m'intéresse beaucoup. Alors, l'enquête de moralité de Higdon est tout à fait béton. Ce sujet n'est un citoyen respectable, qui n'est pas affabulateur, qui ne s'intéresse pas aux ovnis, rien du tout. On lui fait passer toutes les épreuves possibles au détecteur de mensonges. Alors je précise bien que le détecteur de mensonges ne permet jamais de savoir la réalité des faits. Il permet simplement de connaître la sincérité du sujet. Par exemple, si vous me tuez, on vous fait passer au détecteur de mensonges, est-ce que vous avez tué Marie-Thérèse de Brosse, vous allez dire non, non, non. Ou vous allez dire oui, 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 mais le détecteur de mensonges réagira à votre émotion. Si vous dites non, non, non de façon très émue, ben, votre émotivité, bon, je ne vous fais pas de dessin. L'examen de la balle est tout à fait ahurissante. La balle est retournée de l'intérieur comme un gant. Voilà. Je parle de ce cas parce que c'est un côté complètement comme conte de fées moyenâgeux. C'est le genre d'histoire où j'aurais pas tellement travaillé sur le dossier, je n'aurais jamais accepté une histoire pareille. Jamais. Et d'ailleurs, Higdon est un type excessivement sympathique, posé, qui ne cherche pas du tout la publicité.
Est-ce que tu as une dernière question à poser, Jean-Pierre ?
Oui, parce qu'il y a 4-5 ans, je faisais assez souvent des rêves d'OVNI, quoi. Je rêvais dans la nuit que ça se passait la nuit, Alors je les voyais dans le ciel, puis des fois ils me fonçaient dessus, j'étais obligé de me mettre à plat ventre par terre. Plusieurs fois des choses comme ça qui m'arrivaient la nuit.
De façon consciente, vous n'avez jamais eu l'impression d'avoir observé un phénomène ovni?
Non, je me suis intéressé, mais j'ai jamais été. J'ai pas d'expérience à ce niveau-là.
Oui, mais alors attendez, parce que il est vrai qu'il y a certains sujets qui vivent des expériences tellement dérangeantes que leur conscient leur fait oublier, n'est-ce pas? Le conscient ne veut pas assumer la responsabilité de tout, et on a cette espèce de poubelle, l'inconscient, où on stocke ce dont le cerveau ne veut pas garder la responsabilité. Mais quand même, il y a le phénomène des rêves, et vous pouvez rêver de Diplotocus rose avec des pois violets,
ouais.
Et ça ne veut pas dire pour autant que vous avez vu des Diplotocus roses avec des pois violets. Heureusement que nous avons cette activité onirique qui nous permet de débrayer un peu du quotidien, qui nous fait voir des choses ou merveilleuses ou désagréables, mais ce n'est pas parce qu'on rêve de quelque chose que ça correspond forcément à du vécu.
Oui, non, mais c'est pas, je disais pas ça, mais à l'époque ça m'avait troublé, quoi, parce que c'était des rêves assez mouvementés.
En général, les rêves d'OVNI ne sont jamais neutres. La thématique OVNI nous interpelle à un niveau très profond. Et d'ailleurs, il n'est que de voir l'opposition effroyable, passionnelle, de mauvaise foi, des sceptiques qui, la plupart du temps, ne connaissent pas le dossier et qui deviennent mais carrément mauvais, qui traitent ceux qui s'y intéressent de débiles, parce que c'est quelque chose qui nous interpelle très profond, plus profondément qu'on ne le voudrait, et de même que souvent, les gens qui s'intéressent à ce dossier s'y intéressent quelquefois un peu trop passionnément. Hein. Ce n'est absolument pas un sujet neutre.
Ouais, ok. Voilà, c'est tout.
Merci de votre témoignage.
Je vous ai pas trop embêté avec mes histoires.
Mais pas du tout. Bonheur de vous entendre tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Merci Jean-Pierre. Vous êtes à l'écoute de Marie-Thérèse Debrosse sur Radio Ici et Maintenant 95.2. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore noté, le titre de son bouquin, paru en 95, et qu'on peut encore trouver aujourd'hui parce qu'il est ressorti chez J'ai lu, en édition de poche, c'est Enquête sur les enlèvements extraterrestres. Marie-Thérèse Debrosse vous accueille au 01 45 75 44 44 ou 45 45.